dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Bonjour à tous, merci de passer ce week-end avec nous. Contente de vous retrouver pour une nouvelle balade à travers le temps, en compagnie, comme à chaque fois, d'un invité. Si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez qu'ici, on a la machine à remonter le temps. On va se télétransporter, revivre des moments qui ont compté dans la vie de ce raconteur d'histoire. Chacun de ses ouvrages s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Au total, c'est 20 romans et plus de 45 millions de livres vendus et traduits dans 49 pays. Là, je sens que je suis un petit peu en train de vous perdre tellement il y a de chiffres. Alors on va passer aux présentations. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Votre dernier roman s'appelle Ghost in Love. Ça y est, dernier bébé qui est sorti. Comment s'est passé l'accouchement? Est-ce qu'on peut parler d'accouchement finalement?
Oui, on peut.
Alors comment ça s'est passé?
Bien.
Ça se passe toujours bien?
Non, il y a des accouchements plus difficiles. De passer de ces mois où on est tout seul dans son bureau avec des personnages et de se retrouver en fait un peu exposé comme ça, quand on est pudique, c'est un... il y a des paliers. Plus les jours passent et plus en fait le roman vous échappe. Quand il vient d'être terminé et quand on l'accompagne comme ça pour la sortie, on parle du roman et donc on est encore avec les personnages. Et puis à un moment, il y a cette réalité qu'il faut passer à une autre histoire et donc il faut le lâcher. Alors il y a des livres qui ont été plus faciles pour moi à lâcher que d'autres.
Ouais.
Ou des personnages, vous voyez, qu'il a été...
Parce que vous vous attachez finalement à ces personnages avec qui vous avez passé du temps.
Oui.
Alors que c'est des personnages fictifs.
Ouais, ils prennent vraiment vie.
Ghost in Love, c'est un livre touchant, audacieux, joyeux. L'histoire, c'est celle d'un fantôme, Raymond, un ancien chirurgien qui va revenir hanter son fils Thomas, pianiste virtuose, et qui va lui demander une chose, réunir ses cendres avec celles de sa bien-aimée, Camille, qui vient de décéder à San Francisco. Leurs cendres réunies, ils pourront être unis pour l'éternité. À quel moment et de quelle façon a germé cette histoire dans votre esprit?
Une idée, c'est le début d'une histoire, mais c'est pas une histoire. En fait, il est beaucoup plus difficile de se souvenir de la façon dont naît une histoire que de la genèse d'une idée. Il y a des thèmes qu'on a envie de raconter, dont on a envie de parler. Moi, par exemple, un thème que je trouve très tendre et très doux, c'est cette conversation à voix basse avec les gens qu'on aime et qui sont loin ou qui ne sont plus ou dont on est séparé dans la vie amoureuse, et de cette présence, vous voyez, qui dure. Bon, ensuite, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur cet incroyable métier de parent. Et donc m'est venue l'idée à un moment donné de ce père qui revient de l'au-delà parce qu'il a un vrai service à demander à son fils, qui en même temps va lui révéler des secrets qu'il ignorait, bien sûr, qui va du coup lui parler de ses fragilités. Et un roman où finalement, le père est parfois beaucoup plus gamin que le fils. Mais il vient aussi pour poursuivre une conversation avec son fils. Et
il n'a pas eu l'occasion d'avoir par pudeur, justement.
Voilà.
Ouais, tout à fait. Le père dans ce roman s'appelle Raymond. C'est aussi le nom de votre papa à qui vous dédiez cet ouvrage. Il paraît que c'était un de vos premiers lecteurs. Il a fallu qu'il soit plus là pour écrire cette histoire.
Je pense qu'il aurait été là. Il se serait...
Il se serait reconnu. Parce qu'il avait de l'humour, il avait beaucoup d'autodérision.
En fait, il était tellement pudique que je suis même pas sûr que devant l'évidence, il se serait reconnu, vous voyez. Mais en tout cas,
il vous l'aurait peut-être pas dit.
Il n'aurait jamais dit, il se serait marré beaucoup. Je pense que si je l'avais écrit de son vivant, on l'aurait presque écrit à quatre mains.
Quand on lit votre livre, on passe par plusieurs émotions. On a parfois la larme à l'œil, on a parfois le sourire aux lèvres. Et quand on referme le livre, on pense à Raymond. Ce fantôme qui pourrait être aussi un parent, un grand-parent, ça donne envie d'y croire en fait à cette histoire.
En fait, vous savez, je l'ai dédié à mon père à la fin du livre. C'est le personnage de Raymond, c'est pas mon père. J'ai pas écrit un livre posthume. J'ai vraiment écrit un livre pour tous les pères,
ouais.
Et surtout d'ailleurs pour ceux qui sont vivants. Le roman commence par cette phrase de Thomas quand il est petit garçon et qui dit à son père: "Papa, c'est quoi être un père ?" Et à la fin, évidemment, je vais pas la dévoiler. Raymond, qui a cherché la réponse à cette question toute sa vie, la trouve, ce qui est absurde 5 ans après sa mort,
ouais.
Et finalement se retournera vers son fils et lui donnera la réponse.
Ghost in Love chez Robert Laffont, dans toutes les bonnes librairies et sur les sites de vente à distance. C'est l'heure d'embarquer pour un voyage dans le temps. Marc Lévy, on y va?
Allez.
Allez, c'est parti. Vous êtes né le 16 octobre 1961 à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Votre père Raymond avait un magasin de chemises sur les Champs-Élysées. Il était écrivain aussi, éditeur. Votre mère Danielle travaillait dans une agence immobilière. Il y a votre sœur aussi, Lorraine. Marc Lévy, enfant, il zozotait, il a mis du temps à muer, avait un bandeau sur l'œil aussi pendant un moment. Désolée, ça c'est la description faite par votre sœur.
Sympa, je dîne avec elle ce soir.
Je suis désolée, vous étiez au courant
non,
ou pas ?
Non mais c'est bien, je dîne avec elle ce soir, ça va se payer très cher.
Mais si vous préférez, on peut dire par exemple que vous étiez timide, rêveur et pudique, c'est un peu ça.
Oui, mais tout ça est vrai, oui, oui.
Ça l'est encore ?
Timide, oui, et pudique énormément. Oui.
Rêveur aussi ?
Ah, rêveur, bah oui, j'en ai... Alors ça c'est la revanche, vous voyez, de la dette de l'enfance, c'est que j'en ai fait mon métier.
C'est rassurant finalement ? On se rend compte qu'on peut être... comme ça, et puis s'en sortir ?
Je crois qu'on n'accorde pas assez d'importance au rôle de l'imagination, y compris dans la société. Quand j'étais à l'école et qu'on demandait à un médecin si on pourrait un jour greffer un cœur, les médecins vous disaient non. Et il a fallu qu'un médecin imagine que ça devienne possible. Et toute l'évolution de l'humanité est née de l'imagination. Quand Jules Verne écrit « De la Terre à la Lune », tout le monde se moque de lui en disant « Mais c'est ridicule ». Et moi, quand j'ai vu le premier homme se poser sur la Lune, j'avais 9 ans. J'ai ce souvenir d'enfance en me disant « Mais combien d'eux ont lu « De la Terre à la Lune » et c'est pour ça qu'ils sont là ». Sans imagination, il n'y a pas de projet de société. Et sans projet de société, il n'y a pas d'union de la société.
Marc Lévy, on va se retrouver dans un instant.
C'est très sérieux ce que je veux dire.
Vous propose... Mais c'est très intelligent en même temps.
Oui, c'est sorti comme ça, j'ai pas fait exprès.
On va se retrouver dans un instant. Je vous propose d'écouter David Bowie. Vous savez pourquoi ?
Oui, parce que j'ai mis en exergue du livre « J'aime que la musique fasse ressortir les fantômes qui sont en moi ».
David Bowie, Let's Dance sur France Bleu. Nous sommes avec Marc Lévy aujourd'hui.
France Bleu.
David Bowie, Let's Dance sur France Bleu. Merci de passer le week-end avec nous dans le rétro. Notre invité, c'est Marc Lévy pour son livre Ghost in Love.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
On va appuyer sur le bouton juste en face de vous pour enclencher à nouveau la télétransportation. Nous sommes à New York, au dernier étage d'une maison de briques rouges. C'est la nuit. Vous êtes dans votre bureau, à vos pieds. Votre chienne, Alice, face à vous, la photo de votre grand-mère. Vous écrivez Est-ce que c'est vrai que vous écrivez 15 à 17 heures par jour?
Oui, c'est vrai. Ouais.
C'est énorme.
Oui, c'est beaucoup.
Vous dormez jamais?
Je dors peu, mais je dors vite.
Finalement, en fait, pour voir votre femme, vous bossez avec elle?
Oui, non, mais je m'arrête, un pour passer du temps avec ma femme et pour profiter aussi de mes enfants. Non, le temps d'écriture pure, il est de, oui, il doit être 12 heures à peu près.
On va se télétransporter à nouveau. Nous sommes cette fois dans la nuit du 20 octobre 1999, il y a un programme, des studios hollywoodiens vont vous contacter, donc sur ce programme il y a un ordre de passage, parmi eux DreamWorks, la Fox aussi, associée sur ce coup avec Julia Roberts, le téléphone sonne, c'est un truc de dingue, c'est Steven Spielberg, c'est lui qui adaptera votre premier roman, et si c'était vrai?
Ouais.
Le premier roman quoi?
C'était hyper impressionnant.
Il y a de quoi, ouais.
En même temps, il y avait un côté complètement magique parce que pour moi, Spielberg, c'était le magicien des rêves, vous voyez, tous les rêves. Et vous savez, il y a des gens qui font tout leur possible pour vous rappeler qui ils sont, et vous avez des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour vous faire oublier qui ils sont. Et lui, il avait cette humanité-là, vous voyez, cette forme d'humanité. Et donc, je sentais qu'il savait que j'étais pétrifié et qu'il avait envie que ça soit un bon moment et pas un moment... Et donc, j'en garde un moment absolument magique.
Mais c'est surréaliste, la
C'est
situation.
Complètement surréaliste. Mais vous savez, c'est comme... Comment vous dire? C'est après, quand vous raccrochez, que vous commencez à vous dire « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui vient de m'arriver ?»
Et avant
non,
on
alors,
a envie d'assurer,
oui,
on a
mais
envie
en fait,
de...
Je vais, oui, non, mais en fait, je vais vous dire. Avant, j'ai pas eu le temps de flipper parce que je savais pas que j'allais lui parler. Et à un moment, le téléphone sonne et j'entends « Bonjour Marc ». Et avant qu'il ait dit « C'est Steven Spielberg », j'avais reconnu sa voix. Donc c'est là, à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a une disparition totale de la salive, une montée de la tension à 18. Mais ça reste un immense souvenir dans ma vie. J'oublierai jamais ce moment. C'était absolument magique. Et la première fois que je l'ai rencontré, je vous raconte pas dans quel état j'étais.
Donc il a décidé d'adapter votre roman. Et si c'était vrai, il a changé quand même pas mal de choses par rapport au roman quand on regarde le film. D'un côté, donc, vous avez un des plus grands réalisateurs au monde, mais de l'autre, concernant l'histoire, il y a eu une déception quand même ou pas?
Quand vous vous installez dans une salle de cinéma, vous voyez le logo de la DreamWorks, d'accord? Après, vous voyez le titre de votre premier roman. Et après, vous voyez « Produced par Steven Spielberg ». Même s'il y a un type sur une chaise qui lit l'annuaire, si vous n'êtes pas heureux à ce moment-là de votre vie, vous ne serez jamais heureux, vous voyez? Donc c'est tellement improbable, et puis bon... Rien que pour ça, c'est très joyeux. Mais ce qui est de toute façon, il y a un truc qui est miraculeux quand vous voyez des personnages que vous avez imaginés dans votre tête, ils prennent vie. Et quand je suis allé, par exemple, sur le tournage, le décor de l'appartement est exactement la copie conforme de ce que j'avais en tête quand j'ai décrit l'appartement dans lequel Arthur et Lorraine vivent leur histoire. Et à un moment donné, je suis rentré sur ce décor et je me dis, mais c'est incroyable, je suis dans mon roman, je suis à l'intérieur du roman.
Et si c'était vrai, premier roman, vous étiez donc architecte à l'époque et vous vouliez écrire pour votre fils, lui remettre le manuscrit une fois adulte. Est-ce que vous croyez que tout le monde peut écrire? Puisqu'au début, c'était juste un manuscrit pour votre fils.
Tout le monde peut écrire et tout le monde ne peut pas publier. Il y a une espèce de sacralisation de l'écriture qui la rend inaccessible à une quantité de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas écrire parce qu'en fait, ils pensent pas à l'écriture, ils pensent à la publication. Si demain, vous ressentez l'envie de jouer de la guitare ou de jouer du piano ou de vous mettre à peindre, vous n'allez pas penser à votre premier concert et vous n'allez pas penser à votre première exposition. Vous allez d'abord apprendre à jouer du piano ou de la guitare ou vous allez apprendre à peindre et vous êtes absolument conscient que votre premier tableau va pas nécessairement être votre chef-d'œuvre. Si vous vous débarrassez de cette exigence que votre premier travail soit immédiatement publié, lu... Et ben du coup, vous allez faire une rencontre avec un moyen d'expression qui va vous apporter énormément de joie. Je viens de publier mon 20e roman et quand je commence mon 20e roman, je pars avec l'humilité ou la fragilité de me dire peut-être que dans 50 pages, je vais me rendre compte que c'est pas bien et que c'est pas publiable.
Mais vous avez des demandes des éditeurs quand
non.
même? Non, jamais.
Non.
Donc il n'y a pas un impératif de se dire, voilà, je vais publier parce que tel éditeur
non,
va me demander. Jamais. En 2000, après le succès de votre premier roman, vous démissionnez de votre poste d'architecte pour devenir donc écrivain. Des livres, il y en aura 19 autres. Deux seront encore adaptés au cinéma, Mes amis, mes amours et Où es-tu? Le dernier sorti s'appelle Ghost in Love. Marc Lévy, on revient dans un instant pour la suite dans le rétro sur France Bleu. France Bleu.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi.
Passez un excellent week-end en compagnie de l'écrivain à succès Marc Lévy, invité dans le rétro sur France Bleu.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
On va allumer l'autoradio Marc Lévy.
Les quatre coins de la terre, je t'écris des tranchées de guerre abandonnées.
Grégory Lemarchal, je t'écris. C'est vous qui avez écrit ces paroles en 2005. Grégory Lemarchal est parti 2 ans plus tard. Il avait la mucoviscidose. Comment vous en êtes venu à écrire pour lui?
C'est grâce à un ami, à Bertrand Lamblot, qui était son directeur artistique, et qui m'a appelé un jour et qui m'a dit « Est-ce que tu voudrais écrire une chanson pour Grégory ?» Enfin, pour Grégory.
Et quand on est écrivain, on se dit qu'on peut écrire une chanson aussi.
Bah en fait, quand vous avez des gens qui, quand vous avez des artistes qui vous inspirent, vous vous mettez au boulot. Et puis en plus, il y a eu une rencontre avec un musicien qui s'appelle Yvan Cassard. C'est un musicien génial et il se met au piano
Les mots que vous écrivez.
Dès que je l'entends jouer, il y a des mots qui me viennent dans la tête et j'écris immédiatement.
On va ouvrir maintenant la boîte à gants.
Alors, dans la boîte à gants...
Il y a un brevet de secourisme. Ouais. Vous avez passé votre brevet après le bac. À 18 ans, vous rejoignez une unité de secours de la Croix-Rouge dans les Hauts-de-Seine. 6 années au contact de la précarité, de la violence, de la souffrance. Qu'est-ce qu'on se dit le soir quand on rentre chez soi et qu'on manque de rien?
Moi, ce que je ressentais, c'était ce que la Croix-Rouge m'apportait à moi. Parce que quand vous avez 18 ans, l'une des choses les plus difficiles de la sortie de l'adolescence, c'est de savoir qui on est et à quoi on sert. Et en fait, vous arrivez à la Croix-Rouge, et le premier jour, vous aidez quelqu'un. Mais on se sent tout petit. On se sent tout petit, et le simple fait de se dire qu'on a pris la décision de pas juste regarder, vous voyez, de dire, bah, on sait bien qu'on va pas sauver le monde.
C'est des petits gestes, mais qui réconfortent et qui apportent beaucoup aux autres. On va ouvrir le pare-soleil maintenant, Marc Lévy, allez-y.
Ah oui, c'est une photo que je connais bien, ça.
Une photo de votre père, Raymond Lévy.
Oui, c'est une photo très tendre entre mon père et moi. C'est une photo dans une signature qui avait eu lieu à Paris. Il était venu me voir. Mon père, c'était un homme d'une... Enfin, il était, comment vous dire... Il était parfois très discret. Et il se penche vers moi, il m'embrasse comme ça sur le front.
Ouais.
Et tout à coup, j'en ai plus rien à faire qu'il y ait du monde. Puis moi, je suis horriblement timide et pudique. J'ai toujours cette gêne quand je suis au milieu des gens, et là, je sais pas, d'un seul coup, j'avais 12 ans et mon père était là, il me protégeait.
Mais parce que c'était un moment rare? Cet instant où il vous embrasse sur le front?
Oui, parce qu'on était très pudiques l'un et l'autre.
Votre père Raymond était résistant, il a été torturé et déporté à Dachau avec son frère Claude. C'était l'ultime convoi vers les camps de la mort, 800 détenus. Il s'est évadé à quelques kilomètres de la frontière allemande. Vous avez écrit un livre, Les enfants de la liberté, oui, qui retrace une partie de cette histoire. Comment votre père vous en parlait de cette période? Et est-ce qu'il vous en parlait?
Mais non, il n'en parlait pas du tout, justement. D'ailleurs, je l'avais écrit en secret. C'est un de ses copains qui m'en a parlé un jour et qui m'avait dit, si un jour tu veux connaître la vraie histoire de ton père, viens me voir. C'était pendant la préparation du procès de Klaus Barbie et lui faisait partie des gens qui préparaient le procès. Et donc il avait une grande table sur laquelle il y avait les reproductions officielles estampillées des cahiers de police de Klaus Barbie, la police de Lyon. Il m'a dit, voilà, écoute, tourne les pages et à chaque fois que tu verras le prénom de Jeannot, c'est ton père, parce que c'était son nom de résistant. Première page, jour, et je vois aujourd'hui, le dénommé Jeannot a fait exploser avec ses copains 6 locomotives en gare de Matabiau. C'était une brigade de résistance très active et qui avait une double particularité. La première, c'est que ils avaient entre 18 et 25 ans. Et la deuxième, c'est que la très très grande majorité d'entre eux étaient des immigrés. Et en fait, la très grande majorité de ces gamins sont morts en criant « Vive la France » avec un accent étranger. Je dis ça, je dis rien, mais... Bref, entendez quand même ce que ça veut dire. Et voilà. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont la possibilité de venir à la radio ou à la télévision pour faire de l'étranger un ennemi, mais qui ont oublié qu'il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont morts et qui ont payé de leur sang pour qu'ils puissent venir aujourd'hui à la radio parler librement. Donc voilà, oui, c'est un roman qui raconte l'épopée de ces jeunes. D'ailleurs, parce que ça, il leur est jamais permis, qui n'est pas un roman non plus sur mon père, qui est un roman sur cette bande de copains. Ouais. Et parmi eux, il y en a un d'entre eux qui était mon père. Et c'est quand j'ai eu terminé l'écriture qu'évidemment je suis allé lui présenter le manuscrit. Ça, c'était aussi c'était un moment assez intense parce qu'il savait pas, donc, et c'était quand même un choc de lui remettre ça. Et donc je lui ai remis et je suis parti très lâchement en lui disant, lis, tu m'appelles quand ça. Et voilà. Et puis il m'a appelé 3 heures après et il a eu cette phrase avec cet humour décalé qui le caractérisait, parce qu'évidemment, je faisais le tour du pâté de maison, je tremblais de savoir ce qu'il allait penser. Et je suis monté, et je lui ai dit, alors tu as lu? Et il m'a regardé, il a souri, il m'a dit, bah oui, bien sûr que j'ai lu. Et je lui ai dit, et alors? Et il a souri, il m'a dit, alors je me souvenais pas que ça avait été aussi dur. Et ça, c'était tout son mode d'humour et de retrait, vous voyez, au second degré, de me dire... Oui, ça c'était bien, ça s'est bien passé comme ça.
Encore la pudeur.
Après, il a essayé de me décourager de le publier en me disant que ça n'intéresserait personne. Et là, j'ai réussi à le convaincre du contraire.
Est-ce que, comme votre personnage Thomas dans Ghost in Love, vous avez posé cette question à votre père? C'est quoi être un père?
Non.
Et après avoir écrit ce roman, vous avez, vous, la réponse?
Elle est à la fin du livre.
Merci Marc Lévy.
Merci à vous.
Ghost in Love, une histoire pleine de sourires et de drôleries. Le livre est sorti chez Robert Laffont. Lisez-le, partagez-le. Les vacances approchent en plus, donc c'est le moment de faire sa petite liste de bouquins. Dans le rétro, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas cette émission, vous pouvez la réécouter en replay avec l'appli France Bleu. Vous avez accès à tous nos programmes. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.